Vincent Hauteville, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes analyste et spécialiste des valeurs sur les pays émergents. Vous êtes chez Anderson Global Investor. On va donc parler de ces marchés avec vous. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la zone euro en ce moment et pour cause, hein, avec les questions liées aux dettes souveraines notamment. Les pays émergents, les marchés émergents, on va dire depuis quelques mois, est-ce qu'ils suivent ce qui se passe dans la zone euro, c'est-à-dire dans le mauvais sens, ou est-ce qu'ils s'en distinguent?
Deux éléments de réponse à votre question. Les indices des marchés émergents ont baissé plus en fait que l'indice monde dans la récente baisse des marchés, parce que traditionnellement, les marchés émergents sont vus comme assez vulnérables aux difficultés qu'on peut avoir dans les marchés des pays développés. L'autre élément de réponse, j'étais à Hong Kong il y a 3 semaines, j'ai rencontré beaucoup de patrons d'entreprise. Les gens sont vraiment inquiets à Hong Kong et en Chine de ce qui se passe en Europe. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Clairement, les pays développés et surtout l'Europe n'expliquent pas très bien tout le processus en fait qui est en place aujourd'hui, ce qui rend donc une grande incertitude au niveau des entreprises et des chefs d'entreprise.
Donc un besoin de clarification finalement de comment fonctionne la zone euro sur le plan politique notamment et sur les décisions qui seront prises dans les prochains jours.
Je pense que ça serait vraiment bienvenu pour expliquer en effet au reste du monde ce qui se passe.
Alors, en termes sur les questions économiques, c'est ralentissement aux États-Unis ou pas de reprise, en tout cas pas encore véritablement de reprise dans la zone euro. On vient d'en parler. On s'est posé les questions sur les pays émergents s'il y avait déjà un impact de finalement de ce qui se passait sur le plan économique. On voit en Chine, il y a des inquiétudes récentes.
Alors, on a vu en effet depuis quelques mois une baisse de la croissance des exports par les pays émergents, qui sont une réflexion en fait de ce qu'on peut voir comme ralentissement en Europe ou dans les États-Unis. En termes boursiers, clairement, les indices des pays émergents ont baissé plus. On a vu des sorties de fonds qui étaient assez importantes, au moins 40 ou 50 milliards de dollars au cours des 2-3 dernières semaines. Mais les niveaux de valorisation en fait, des pays émergents ont considérablement baissé. Il y a 15 jours maintenant, au creux de la crise, la valorisation des résultats des marchés émergents était de l'ordre de 8. Pendant la crise Lehman, on était à 6. Donc ce n'est pas aussi mauvais que ce qui s'était passé, mais il y a vraiment eu une baisse. On a eu une reprise assez importante depuis une semaine, avec, on l'espère, l'émergence d'une coordination pour trouver une solution au problème européen.
Alors, quand on parle, hein, des pays émergents, c'est vrai qu'il faut donner dans la précision, c'est-à-dire qu'on peut parler de la Chine, on peut parler de l'Inde, mais on peut aussi parler d'Amérique latine, par exemple. On n'a pas les mêmes situations, bien sûr, dans toutes ces zones. Si on parle de l'Amérique latine, est-ce que de ce côté-là, de la planète, on a de la croissance?
Alors, il y a une croissance très soutenue dans la zone Amérique latine, avec des diversités d'un pays à l'autre. Et par rapport peut-être à l'ensemble des pays émergents, l'Amérique latine est beaucoup moins ouverte au commerce international que l'Asie. Le Brésil, en fait, est un pays qui est paradoxalement encore assez fermé, même s'il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont investi au Brésil pour pouvoir exporter. Et la consommation domestique reste très soutenue et les investissements restent aussi très soutenus parce qu'il y a des besoins d'infrastructures qui sont très importants. Donc la vulnérabilité à un ralentissement des pays développés par le canal des exportations est assez faible. La vulnérabilité aux difficultés par le canal financier est plus importante. On a vu un affaiblissement des devises. Mais ce qui est très intéressant de voir, c'est que les banques centrales ont réagi en fait dans le sens de favoriser la croissance en baissant les taux. Alors que dans le passé, on aurait pu voir une hausse des taux pour défendre la devise. Là, les banques centrales ont préféré en fait agir de manière préemptive avec le Brésil qui a baissé les taux pour s'assurer que la croissance reste là.
Alors, vous disiez que vous étiez à Hong Kong il y a peu de temps. Est-ce que du côté de Hong Kong, on ne s'inquiète pas de ce qui se passe en Chine? On voit effectivement les autorités essayer aussi sur les questions d'immobilier, un marché qui était en surchauffe, de calmer ce marché et en même temps les conséquences du ralentissement de la zone euro. Est-ce que la Chine, certains envisagent, hein, alors c'est souvent les plus pessimistes, envisagent que c'est le prochain risque, la Chine?
La Chine a réellement mis en place des mesures de ralentissement du secteur de l'immobilier qui marchent, notamment dans des villes où la hausse des prix avait été très très rapide et posait des vrais problèmes sur le plan politique et social. Et il ne faut pas oublier que les autorités chinoises sont très sensibles à cette dimension-là. Ceci étant, si on regarde l'ensemble de la Chine et le marché immobilier, les villes comme Beijing et Shanghai représentent un faible pourcentage du marché immobilier chinois. Les villes de deuxième, troisième, quatrième rang représentent la vaste majorité, 90% ou 95% en fait, du marché immobilier. Les volumes restent corrects, les prix continuent dans certains cas à augmenter. Donc ce n'est pas un secteur qui est au bord de la débâcle. Il y a eu clairement un ralentissement de la hausse des prix, de la hausse des volumes, mais ce n'est pas du tout, c'est pas du tout une catastrophe qui va arriver dans les 2 prochains mois.
Alors, on disait, on a l'impression aujourd'hui que ces pays émergents sont moins immunes en quelque sorte, hein, sont aussi touchés par ce qui peut se passer sur la zone euro et aux États-Unis. Est-ce que ça veut dire quand on investit sur ces zones-là, on parlait des précautions à prendre parce qu'on voyait des fonds qui repartaient, mais ça arrive dans les périodes de crise, effectivement, des précautions à prendre en termes d'investissement?
Pour nous, on se concentre toujours sur des industries qui nous semblent être robustes et prometteuses. Et au sein des industries qui nous semblent être donc robustes et prometteuses, on essaie toujours d'identifier là où les compagnies qui ont les meilleures perspectives de croissance et qui sont aussi elles-mêmes robustes. C'est-à-dire que on insiste sur la qualité, que ce soit la qualité des bilans, la qualité du management, la qualité de la stratégie qui est mise en place. Donc, il y a une espèce de principe de précaution qui reste présent. En même temps, quand on a une volatilité comme on a eu, ça crée des opportunités d'investissement qui peuvent être en effet très très intéressantes, puisque à chaque fois qu'on a des retraits comme ça, ils sont souvent faits de manière complètement indiscriminée et on voit des sociétés de très bonne qualité dont le cours baisse de manière exagérée. Et là, on peut réorganiser notre portefeuille, vendre une position qui avait plutôt bien performé, puis réallouer notre capital dans ce genre de position.
Oui, parce qu'on peut considérer que ce type de valeur étant recherchée, effectivement, elles sont chères de premier abord, en tout cas. C'est plutôt des valeurs qui, quand elles offrent cette visibilité, elles sont plutôt chères à acheter au
Tout
départ.
à fait, mais en même temps, il y a des opportunités de marché qui arrivent et donc c'est à nous de savoir en profiter.
On parlait de secteurs. Il y a des secteurs qu'on évite aussi dans cette période, parce que si on prend la zone euro, c'est clairement le secteur financier. Aujourd'hui, je n'ai pas rencontré un seul investisseur qui, peut-être à tort, hein, mais qui investit dans le secteur bancaire. Est-ce que sur les pays émergents, sur ces marchés-là, il y a des secteurs qui sont aujourd'hui mis de côté?
Les conclusions varient pays par pays. Nous sommes dans le fonds émergent global sous-pondéré les valeurs financières, avec une sous-pondération notamment dans les banques, puisque on a vu les banques, notamment en Chine, être utilisées par le gouvernement comme un outil de politique monétaire. Et on n'est pas très confortable avec ça parce qu'on ne sait pas trop ce que ça peut donner. En revanche, des pays comme l'Indonésie, où vous avez des banques de très bonne qualité, nous avons une exposition à ça. Donc ça peut vraiment dépendre d'un pays à l'autre et on fait très attention à prendre en compte la dimension locale, les circonstances locales pour faire nos investissements.
En conclusion, pour vous, c'est les marchés émergents. Dans un portefeuille, effectivement, si on n'en a pas aujourd'hui, on risque d'échapper à, je dirais, de la performance. S'il faut en avoir dans un portefeuille diversifié.
Historiquement, si on n'en a pas aujourd'hui, il faudrait en avoir. Maintenant, prenons les chiffres. En termes de valorisation des résultats, les marchés émergents traitent à une décote de plus de 10% par rapport à un indice monde. En termes de valorisation des fonds propres, il y a aussi une légère décote par rapport à la valorisation des fonds propres de l'indice monde, alors que les rendements des fonds propres sont très élevés. Le rendement des dividendes est égal à l'indice monde. Donc vous avez à la fois de la croissance, puisqu'on attend des résultats qui vont croître de l'ordre de 15%, c'est-à-dire à peu près 2 fois plus vite que ce qu'on peut avoir au niveau mondial, des rendements des fonds propres qui sont très élevés et un dividende. Donc on a de la croissance plus du dividende, ce qui semble une combinaison très attractive.
Merci d'avoir fait le point avec nous, Vincent Hauteville. On rappelle que vous êtes donc analyste spécialiste de ces pays émergents chez Henderson Global Investors.
Je vous remercie.